Ça fait beaucoup de plaisir d'être ici de nouveau. Chaque année, on peut être ici, c'est une grâce. Ça change un peu la vie de Phnom Penh. Ce matin, quand j'ai conduit, j'ai dit à Ruth, tout est calme, il n'y a personne ici. Parce qu'à cette heure-ci, au Cambodge, ça grouille du monde. Les embouteillages, même dimanche matin, à 8h, 7h, 8h. Donc, ce serait bien de passer quelques temps à Spook, dans le calme. Et j'ai combien de temps, là?
Presque une heure, si tu veux.
Ah, mais c'est très généreux, non? Parce que j'étais, le mois dernier, j'étais en Hollande, et j'ai parlé dans une église réformée. Ils m'ont dit, vous avez un quart d'heure pour méditer la parole et présenter votre œuvre, et avec la traduction. En hollandais, de l'anglais en hollandais. Mais j'ai fait le miracle, donc je reste dans à peu près 20 minutes. Donc ça change un peu. Et puis j'étais en Afrique l'année dernière, au mois de novembre, j'ai prêché dans une église pentecôtiste. J'ai demandé la même chose, vous avez combien de temps? J'ai combien de temps? Ils m'ont dit, tu as une montre et nous avons le temps. Donc c'est, à ce moment, c'est le mi-chemin, donc c'est bien. Amara a envoyé un mot pour ceux qui le connaissent. Il me dit bonjour. C'est un homme très occupé maintenant. C'est très difficile à le contacter. Il a travaillé normalement. Il a dit à peu près entre 60 et 70 heures par semaine. C'est trop. Mais il a l'air très heureux. Je le vois de temps en temps. Et il vous salue bien. Le passage qu'on vient de lire, ça m'a toujours été, ça m'a toujours parlé, ça m'a toujours poussé à réfléchir sur notre façon de partager l'Évangile. Quelques jours d'avance, durant la semaine de Pâques, donc ici, vous bougez en arrière, chapitre 20. De chapitre l'épître de Paul, les disciples ont vécu des événements très bouleversants. D'abord l'angoisse et la peur parce que Jésus était arrêté et condamné à mort, donc c'était très tout est changé, chamboulé, bouleversé leur vie. Et puis il y a aussi la honte et la culpabilité d'avoir abandonné leur Seigneur. Donc c'est quelque chose aussi qui est, je crois, on peut sentir dans leur attitude. Et puis le deuil des orientations parce que le Seigneur a été crucifié. Donc tout est perturbé, le plan. Et ensuite, nous avons vu aussi aussi plus tard, le Seigneur est ressuscité. Donc ça change aussi parce que c'est trop absorbé pour une courte période. Mais le Seigneur est venu vers eux après la résurrection le dimanche soir et il a dit que la paix soit avec vous. Il est venu vers eux, ceux qui l'ont trahi, avec un message de pardon et de réconciliation. Pour nous, vous et moi, quand quelqu'un nous trahit ou nous fait de mal, on a appris vite la leçon. On perd la confiance en la personne, même si une fois quelqu'un nous fait du mal. Mais Jésus est retourné vers les disciples. Non pas seulement un message de pardon, mais il est toujours fidèle, tout à fait indépendamment de notre condition, il est venu pour dire, voilà, je vous pardonne, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Souvent, ça m'a beaucoup frappé. Dans notre vie chrétienne, on abandonne le Seigneur par notre façon d'être, par notre parole, par nos actes, mais le Seigneur, il est toujours fidèle. Il est venu vers les disciples, non pas seulement avec le pardon, mais il les envoie. En plus de ça, il donne aussi le Saint-Esprit, la puissance, pour qu'il puisse aller annoncer la bonne nouvelle. Avec la puissance du Saint-Esprit, il donne le pouvoir. C'est important, parce que personne ne peut voir Jésus, mais vous et moi, on a le pouvoir de dire aux gens que le Seigneur vous pardonne, et on travaille avec Jésus, ils sont venus à Christ. On a le pouvoir, en tant que l'Église, de pardonner, parce que le Seigneur a donné. Donc c'est important, nous avons tous rencontré le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui sont nés chrétiens, mais parce qu'on a rencontré le Seigneur, c'est important. Là, personnellement, on a expérience avec le Seigneur. Donc, vous et moi, nous avons tous une histoire à raconter. Votre histoire, on n'a pas besoin de raconter ça des autres. Même votre histoire, comment vous rencontrez le Seigneur, ça c'est très important. Donc le Seigneur restaure, il envoie, et nous avons la bonne nouvelle à annoncer. Comme tout à l'heure, j'étais frappé de ce que Alex a parlé, comment on a une histoire, on a l'évangile à annoncer. Et ça, c'est l'Église qui annonce, c'est Dieu travaille à travers nos églises, à travers nous. Donc, on a le pouvoir du Seigneur, le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir de pardonner, comme les premiers disciples, vous et moi, on a le devoir d'aller apporter. Et on n'a pas besoin d'être un pasteur ou théologien ou un bon prédicateur pour annoncer l'Évangile. Il y a quelques années, il y a une réunion pastorale au Cambodge, il y a 200 pasteurs. Et j'ai posé des questions à eux. Combien de vous, les pasteurs, vous connaissez le Seigneur à travers un pasteur? Il y a deux ou trois. Les restes, ils sont connus. Ils ont connu le Seigneur, ils ont accepté le Seigneur à travers les témoignages d'un simple chrétien. Le Seigneur peut utiliser les simples comme vous et moi. Et vous allez voir dans l'histoire que j'ai racontée plus tard, comment l'Église a grandi au Cambodge ou au Vietnam. Non pas parce que il y a un bon prédicateur, mais simplement les chrétiens vont raconter ce qui se passait dans leur vie. Et ça, c'est un point important. Nous avons tous une histoire à raconter, commencer là où nous sommes. Et puis, on voit plus tard, ici, la lecture qu'on a vue tout à l'heure. Le Seigneur nous a appelés à vivre l'extraordinaire, mais souvent on préfère l'ordinaire. Après la résurrection, le Seigneur dit aux disciples, attendez à Jérusalem et vous allez apporter la bonne nouvelle de Jérusalem, Samarie, Juda et dans le monde entier. J'essaie de voir un peu la chronologie des événements, mais grosso modo, quand le Seigneur est ressuscité, il était à Jérusalem. Et ici, les disciples se trouvent au Tibériade, tout à fait au nord d'Israël. Le Seigneur est allé le chercher pendant qu'il était à la pêche, afin de le faire venir. J'essaie de voir encore ici. Jésus nous a appelés à vivre une vie nouvelle, un changement radical. Mais souvent, on préfère retourner à l'ordinaire. Comme les disciples, vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y a 3 ans, Jésus a appelé Pierre, Jean, Jacques, André, les quatre amis et frères. Ils ont tous abandonné. Ils ont vu la pêche miraculeuse. Mais ils ont tous abandonné leur matériel et suivi Jésus. Et maintenant, après avoir vu tout, les miracles, après avoir vu tout ce qui s'est passé, il retourne à la pêche. Souvent, c'est un peu le symbole de nous. Nous aimerons retourner là où on sent à l'aise. Ce qui est connu, parce que l'inconnu nous fait peur. Et la vie chrétienne, le Seigneur nous appelle à l'inconnu, mais l'extraordinaire. Il a réservé pour nous des choses formidables. Il ne veut pas qu'on retourne en arrière, mais aller toujours de l'avant. Tout ce qu'on abandonne déjà, on ne peut pas retourner et reprendre, mais d'aller de l'avant. Et ici, le miracle que Jésus a fait, encore le poisson, moins nombreux, mais assez pour rappeler à Pierre que voilà, j'étais appelé pour annoncer l'évangile, pour devenir pêcheur d'hommes et pas pour être le vrai pêcheur. Donc c'est important qu'il y a un changement, l'appel que nous devons suivre et pas... c'est vrai, comme j'ai dit, l'inconnu nous rend inconfortable, nous fait peur, mais c'est ça que le Seigneur nous appelle. Parce que si votre vie, il n'y a pas de l'extraordinaire, c'est difficile à annoncer aux gens. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a rien. Le problème des églises de nos jours, plusieurs églises, on dit historiques, il y a un joli bâtiment, mais c'est comme des musées. Parce qu'il n'y a rien à raconter. Le mois dernier, j'étais en Angleterre. J'ai participé au culte du soir dans une cathédrale juste anglicane. Ils ont fait ça depuis 500 années. Et ça devient le truc touristique. C'est très joli, c'est très beau. La liturgie, c'est très joli, mais il n'y a pas de vie. Et donc, on n'a rien à compter. Les gens viennent et retournent vides. Mais nos églises, les vraies églises de Dieu, on a besoin de... Quand on nous la porte, les gens quittent, ça ne sent plus le même. Il y a leur vie transformée. Donc c'est important, on ne doit pas retourner en arrière, mais aller toujours de l'avant. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le changement peut commencer là où on est, on ne peut plus retourner en arrière. On porte la croix et suit Jésus. Et puis, après, je ne vais pas rester trop long, vous connaissez l'histoire de pêche miraculeuse, et puis ça nous rappelle la vocation. Mais une autre chose aussi que Jésus veut faire comprendre aux disciples ici, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est important, l'Église doit travailler beaucoup, mais avec Jésus et pas sans Jésus. Parce que sans le Seigneur, comme le Seigneur dit dans Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin d'être rempli de Saint-Esprit, rempli de puissance et toujours en contact avec le Seigneur. Et je vois dans le ministère que je fais, je voyage dans plusieurs pays et je vois quelque chose en train de bouger dans ce monde. Les gens ont besoin de Dieu. Et il y a dans toute l'Église, même les églises historiques, sont devenues très vivantes maintenant parce qu'ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Retrouver le premier amour, le premier contact, la première relation avec le Seigneur. Et donc, Après cette pêche miraculeuse, Pierre, il a sauté dans l'eau. Il était, normalement, on s'habille et on déshabille pour se jeter dans l'eau. Il fait le contraire. Pierre est toujours comme ça. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il a sauté dans l'eau et il a retrouvé le Seigneur. Il dit rien. Et puis, le Seigneur a préparé le repas pour les disciples. C'est tout est dans ce geste, dans cette... action que Jésus a fait, juste c'est pour les rappeler, tout est prêt. Le Seigneur a tout préparé. Il a pris le pain, encore Jean, il y a toujours le geste qu'il fait là, il y a toujours symbolique, c'est toujours symbolique, c'est que comme le pain, le corps de Christ qui était rompu, et maintenant tu es prêt pour donner au monde. Et c'est notre rôle. Le Seigneur peut faire sans nous, mais il veut que nous participions dans son œuvre. Jésus a donné son corps et sa vie pour le salut du monde. Nous n'avons pas donné tout ça, mais le Seigneur a tout fait. Donc, Jésus lui-même, c'est la bonne nouvelle que nous allons annoncer. Voilà. Je travaille dans le sud-est asiatique, dans le pays à partir entre la Chine et l'Inde. Il y a plusieurs pays là. Et je veux me limiter limiter dans un coin, ça s'appelle l'Indochine, ou là où Cambodge, où Ruth et moi on vit, dans un monde sans Christ. On n'a pas connu l'Évangile très longtemps. Mais le Seigneur est en train de faire, durant ces 30 dernières années, plus qu'il a fait le dernier 100 ans. Les choses commencent à bouger à cause des gens très très simples. Mais avant ça, il y a la déchirure. Il y a toujours révolution. L'Indochine a connu beaucoup de guerres. Premièrement, la guerre d'indépendance pour chasser les Français de l'Indochine. Et après, les Américains, ils pensent qu'ils peuvent faire mieux. Ils arrivent et puis ils ont aussi perdu la guerre. Mais la guerre interne, la guerre civile aussi, ça apporte beaucoup de souffrance. Et toujours les images que je vois dans ma jeunesse. Et puis, il y a toujours la violence, la révolution. Et après, même les jeunes qui sont à la guerre. Et puis après, le génocide cambodgien. Donc, il y a beaucoup de souffrance. Mais là où il y a la souffrance, le Seigneur peut utiliser aussi pour devenir une place de bénédiction. Okay. Mais voilà, ça c'est l'Indochine, le Vietnam. Il y a 92 millions de population. Le Laos, c'est plus calme à gauche. Il y a 6,7 millions. Et puis le Cambodge, un peu plus de 15 millions. Donc, peut-être c'est tous les trois pays ensemble, c'est la moitié de la France, et on a plus que 114 millions. Donc vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de monde. Mais là, le Seigneur aime les gens là-bas, et les choses sont en train de bouger. Donc, on parle plus que 250 langues là-bas, à part la langue nationale du Cambodge, du Vietnam et le Laotien, parce qu'il y a beaucoup de plus que 200 minorités. Et puis, seulement 10% ont la parole dans leur langue. Donc, c'est un champ de travail qui est important. Et puis, mission prioritaire pour nous, c'est vous pouvez imaginer, c'est la traduction de la Bible dans toutes ces langues. Parce qu'ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Sans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut annoncer? Rien. Dans la Bible, la traduction de la Bible est devenue très importante. Et puis, j'ai reculé en arrière. Et puis, il y a aussi la distribution et l'alphabétisation, parce que plusieurs ne savent pas lire. Il y a, je crois, certains endroits, presque un total de tout village, personne ne sait lire. Donc, on a besoin de les enseigner à lire, afin de pouvoir lire la Bible. Et puis, se promouvoir la lecture de la Bible, parce que de nos jours, les gens ne lisent plus. On préfère regarder la télévision. Et parfois, les gens, ils ont passé beaucoup de temps avec le téléphone mobile que de lire. Donc, il y a un problème que nous avons maintenant, c'est comment promouvoir la lecture de la Bible. Mais je ne peux pas aller dans tous ces détails. Ce matin, je vais parler seulement de la traduction, ce qui m'est très cher parce que j'étais traducteur de la Bible. Et en ce moment, je travaille avec une équipe d'une trentaine de personnes. On a travaillé sur une trentaine de langues. Et donc, parce que cette bonne nouvelle, le royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais si on compte cette parole-là, on a beaucoup de choses à faire encore. Parce que dans le monde entier, il y a à peu près 7000 langues et seulement 400 ont la parole de Dieu dans leur langue. Donc, il y a beaucoup à faire. Bon, maintenant, avec les gens qui... Il y a plusieurs personnes qui lisent différentes langues, mais il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de faire au niveau de traduction. Et les peuples ont besoin de l'Évangile. Donc, pour l'instant, nous avons travaillé avec la CIL. La CIL qui travaille sur les langues qui sont moins importantes. Par exemple, s'ils sont moins de 100 000, la CIL, vous connaissez la CIL, hein? Wycliffe. Oui, la Wycliffe, voilà, c'est le même. Donc, on travaille étroitement ensemble. Eux, ils travaillent sur les langues qui ont moins de 100 000 parleurs, ou on dit ça. Et puis nous, on travaille en dessous de 100 000. Et donc, pour l'instant, nous avons 39 projets en cours. 3 terminent cette année, ce qui est important. Et donc, on a essayé de continuer l'année prochaine, de commencer une ou deux autres, selon le besoin. Et donc, j'aimerais parler de ce peuple. C'est intéressant parce que cet homme, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a 91 ans. Et c'est un des premiers bonhommes qui est devenu chrétien. Pardon, ça j'ai fait un peu le mélange l'anglais. Pardon. Voilà, j'ai parlé avec lui il y a 3 semaines. J'étais dans le nord, dans la jungle du Cambodge. J'ai demandé, raconte comment tu es devenu chrétien. Il a raconté pendant la guerre, des années 70, il a échappé la guerre au Cambodge parce que pour aller au Vietnam, parce que pendant les bombardements américains. Il a dit, j'avais toujours été animiste, dans les esprits me suivent toujours. Partout où on va, même j'ai traversé la frontière, les démons nous suivent. Il dit ça. Et pour lui, c'était réel. Il a peur, parce qu'il faut offrir chaque mois un bœuf, chaque semaine un cochon, et chaque 2-3 jours un poulet aux démons, pour être tranquille. Et il dit, pendant nous étions réfugiés, donc on n'avait rien à donner. Donc ils avaient très peur. Il dit, les jeunes, nos jeunes sont malades parce que des démons travaillaient. Et il a dit, et pour moi, c'est bon, si j'ai raconté ça à certains de mes collègues, ils ne croient pas, parce que c'est en Europe, c'est du passé. Mais pour lui, c'était réel. Mais il a dit, on a rencontré certains chrétiens vietnamiens qui nous racontent comment Jésus peut libérer. Et c'est ça, il a retrouvé liberté spirituelle, il est devenu chrétien. Et donc, quand la guerre est finie, il est rentré au Cambodge, retourné à son village, il a commencé les églises, a témoigné. Il n'est pas pasteur, laissez le jeune, parce qu'il est trop vieux pour être pasteur, mais il s'assoit comme moi, c'est pas très confortable, ça s'est dit il y a 3 semaines. Ruth et moi, on est allés dans cette église-là il y a 4 ans. Ils avaient à peu près, je crois, 70 ou 80 avec les enfants. Et maintenant, ils ont plus que 300 dans 4 ans. C'est que les gens qui sont très simples, et les choses, ils n'ont pas besoin de parler, de connaître les choses théologiques très solides, mais ils racontent leur histoire. Donc, pendant que j'étais là, il y a un Cambodgien qui est venu dans le village, apprend la langue, puis il s'est converti. Et donc, on a prié. Le monsieur de Bonhomme, il a aussi prié. Et donc, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ce peuple. Et il raconte toujours. La première chose qu'il raconte, le Seigneur nous a libérés de démons. On n'a plus peur. On n'a rien à voir avec eux. Eux n'ont rien à voir avec nous. C'est fini tout ça. Et donc, les gens, on voit que ils ne sont plus esclaves. et donc ils deviennent chrétiens. Et le peuple, non, ils sont là, mais ils n'ont pas encore la Bible en leur langue. Donc, certains, ils utilisent la Bible khmer, mais c'est trop, c'est pas leur langue. Peut-être ils comprennent 80% ou 100%, c'est pas la Bible dans leur langue. Comme vous, certains de vous, vous connaissez l'anglais ou néerlandais ou allemand, c'est pas la même chose, lisant la Bible dans une autre langue. Et donc, on a besoin de traduire la Bible pour eux. Et pour l'instant, la traduction de Bonhomme est faite par un missionnaire de l'Allemagne avec l'équipe locale au Vietnam et au Cambodge. Ils vont terminer la fin de cette année du Nouveau Testament. Donc, c'est une étape qui est très importante parce qu'avant d'aller à l'ancien, on doit avoir d'abord le Nouveau Testament. Là, ils ont assez pour annoncer l'Évangile. Mais ils ont déjà commencé avant. Il y a le mois de janvier, j'ai visité aussi le nord du Cambodge. Il y a un autre peuple qui s'appelle le Krum. En 2005, les Bunong chrétiens, ils ne peuvent pas garder tranquille. Donc, ils voyagent d'une province à l'autre pour parler l'Évangile. Donc, la première peuple qui sont allés voir sont des Krum. Okay? Et je suis allé là, on ne peut plus aller en voiture, il faut aller en bateau, un petit bac comme ça. Et puis, avec un missionnaire d'Australie, on a apporté quelques Bibles et je devais prêcher là. Et on voyageait dans la jungle et puis après on traverse sur un petit truc comme ça et après on continue à pied. Je suis arrivé avec... Donc, il y a le missionnaire à droite, et puis un de mes personnels, et puis celui, le traducteur de Krum, maintenant, celui au milieu. Donc, on est allé pour visiter le peuple vers la frontière de Laos. Et je suis arrivé, on m'a dit, comme il y a plus on ne peut plus être contacté par téléphone mobile, de ça, le culte commençait à 8 heures. Donc, je devais quitter l'hôtel à 6 heures pour conduire aller 2 heures après. Mais quand je suis arrivé, il n'y a pas d'église, il n'y a rien du tout, et il n'y a personne. Donc, les gens du village, t'en fais pas, assis-vous là, attendez. Parce que les gens devaient faire la récolte. Parce qu'il a beaucoup plu la semaine avant, et la semaine après, donc, il y a le beau temps, ils devaient faire récolter quelque chose. Donc, on attend, il n'y a pas d'heure. Donc, à 10 heures, on a commencé le culte. Et là, ils sont fatigués, travaillent depuis 5 heures du matin, et à 10 heures, ils sont là pour louer le Seigneur. Et donc, ça c'est pour moi, c'est de voir les peuples, ils sont très simples, on a fait le culte, ils sont très reconnaissants parce qu'on apporte la Bible en khmer pour eux. Les enfants peuvent lire encore, à peine, mais les adultes ne peuvent pas. Et le projet de Krum, c'est un projet très difficile. Le projet a été commencé en France par un missionnaire américain. En 1980 à peu près. Donc, ça fait déjà très longtemps, très très longtemps. Et les missionnaires, ils sont maintenant dans leur... Ils s'approchent la fin des années 80 ans. 80. Donc, c'est jamais fini le Nouveau Testament. Parce que c'est très difficile à traduire dans une langue qui n'a pas d'écriture, il n'y a rien du tout. Donc, on a formé ce jeune homme, il n'est pas si jeune, il est une quarantaine, pour prendre la relève. Donc, et l'autre dame, là, comment ils vivent, et là, ils font la traduction de la Bible. Et je crois bientôt, il peut avoir le Nouveau Testament. Donc, c'est une grâce du Seigneur. De pouvoir terminer ce projet et continuer autre chose. OK? Donc, je crois que c'est bientôt, c'est à peu près, c'est prévu pour 2018 pour votre tout Nouveau Testament. Et les gens attendent la parole. Et le même dimanche, le missionnaire m'a dit, on va dans une autre église, tu prêches à 3 heures. OK, on a fait à peu près 2 heures de voiture, on a mangé en vitesse, et je suis allé dans un village, et je n'ai pas d'église. Et on s'est réunis dans sous l'arbre. Ça, c'est l'église. Et pour moi, c'est un plus beau cadeau. C'était en janvier. Et j'aimais beaucoup ça. Parce que ça rappelle comment Jésus a fait avec les disciples. Et ce peuple aussi a été évangélisé par les bonhommes. Ils racontent, ils vont de tribu à une autre tribu pour raconter l'évangile. Et quelques garçons, ils écoutaient bien ce que j'ai dit, ils racontaient, ils sont contents. Et la prière, les enfants, les filles, ils prient beaucoup. Et donc pour eux, ces peuples de Tampoune, les jeunes, ils lisent le Khmer, dont on a donné le Bible enfant, mais n'ont pas encore de la parole de Dieu dans leur langue. Donc, cet ancien, il est en train de traduire avec l'aide des missionnaires de l'Amérique, traduire le Nouveau Testament. Et nous utilisons, on a acheté le terrain avec la CIL, construit une maison là pour être le centre de traduction de la Bible. Donc, on voit que ces peuples, ils n'ont pas beaucoup d'éducation, très très peu d'éducation, les bonhommes. Mais ils sont allés dans différents villages et annoncer l'évangile parce qu'ils ne peuvent pas garder. Comme tu as dit, les enfants, quand tu as une bonne note, tu ne peux pas garder, il faut raconter. Et ils racontent leur histoire. Ils amènent les peuples qui sont sous le contrôle de Satan, de démons. Ils sont tous, tous ces peuples sont devenus chrétiens. Ils m'ont tous raconté que pourquoi, je dis, pourquoi vous êtes devenus chrétiens? Parce qu'on a peur des démons. Et donc, Jésus nous libère des démons. Et ça, c'est important. Et ça, je rappelle encore ce que j'ai dit il y a 10 jours. Les gens simples, le Seigneur peut utiliser. On n'a pas besoin de doctorat pour annoncer l'évangile. Paul l'a bien éduqué, mais Paul dans la Bible, ce n'est pas notre Paul. Et Jean, Pierre, Jacques sont des gens très simples. Ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Ils savaient à peine lire. Et quand j'ai appris le grec, on m'a dit que le grec de la Bible, c'est pas du tout une langue comme il faut. C'est très mauvais grec. Mais ils ont changé l'Empire romain. Des gens très simples. Je crois que vous êtes, si vous lisez avec des bonhommes, certains, ceux qui savent à peine lire, ou ils ne savent pas lire du tout, mais ils ne peuvent pas garder dans leur cœur. Il fallait qu'ils annoncent l'évangile. Et je peux imaginer dans quelques années, ces enfants-là, peut-être dans 5 ans ou 10 ans, ils ont quelque chose dans leur propre langue. Parce que c'est important, c'est l'espoir de l'évangile. Et j'ai décidé de chaque année, au moins je visite les tribus une fois par année et pour voir comment Dieu a changé. Et je vais dans la même église, voir de mêmes personnes pour voir s'il y a des tièdes. Mais ils sont tous en train de grandir. Et surtout, je vois que ces enfants-là, c'est l'espoir de l'Église. Dans quelques années, ils seront adultes. Et priez pour eux, priez avec nous pour le projet de traduction. De Benong, Krung et Tampoune. J'ai 39, mais je parle seulement de 3, parce que je ne peux pas citer tous les 39, c'est trop pour vous. Mais si vous pouvez adopter dans vos prières, de Benong, de Krung et Tampoune, prier tous les jours pour l'équipe de traduction, ce serait beau. Vous partagez dans l'œuvre de la traduction sans vous déplacer. Vous voyez les images, vous voyez les personnes, priez pour eux. Le Seigneur nous a appelés tous à annoncer l'Évangile. Ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses, mais nous aussi, on peut être actifs pour faire quelque chose ensemble. Priez afin que tous ces peuples soient totalement libérés. Et priez pour nous-mêmes. Parce que je crois que nous-mêmes, je veux dire, le Ruth et moi, on a travaillé dans des pays très difficiles. J'ai contacté avec mon directeur cette semaine. Il dit, on va te donner aussi l'Iran et l'Afghanistan. Et la Mongolie. Je ne sais pas comment faire, mais on va voir. Ce sont des pays, et même en Birmanie, en Thaïlande, tout à coup, le pays le plus calme, comme la Thaïlande, il y a coup d'État, et puis les militaires ont pris le contrôle, il n'y a plus de pouvoir. Et en Malaisie, où je travaille aussi, on est en train de... Les gens sont persécutés à cause de l'Évangile, parce que les chrétiens ont le nom de Dieu dans la Bible chrétienne, c'est Allah. Ça, ils ont traduit depuis le Malaisie est devenu musulman. Et donc les chrétiens disent, on a toujours utilisé Allah, pourquoi c'est interdit? C'est le nom de notre Dieu. Et donc les musulmans sont très agressifs, ils ont brûlé les églises, ils ont attaqué, et il y a quelques mois, ils sont allés dans notre bureau et confisqué tous nos bibles en malais, parce qu'il y a le mot Allah dedans. Et on est en train de maintenant demander l'avocat pour le tribunal pour garder le mot Allah, parce que c'est notre argument, le mot était là quand on traduit la Bible avant que la Malaisie est devenue musulmane. Donc il y a toujours des persécutions, il y a toujours des problèmes, et puis même le Cambodge, il y a toujours d'insécurité. Tout à coup, ce mois-ci, on a vécu un moment très difficile, mais le Seigneur nous place là pour annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas aller aux vacances. C'est très difficile. Parce que je sens, quand je vais dans certains pays, la puissance de l'ennemi. En Europe, plusieurs personnes, ou même en Amérique, sont attirées par le bouddhisme. Mais ce n'est pas neutre. On sent la puissance de tous ces idoles-là. Et ce n'est pas facile. Donc, priez avec nous pour les projets de traduction, pour les peuples et pour nous-mêmes. Et les personnels, j'ai à peu près 14 ou 15 au Cambodge qui travaillent tous les jours pour apporter le soutien au projet de traduction. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès. Avant, à l'époque où je traduisais la Bible, une fois le projet est terminé, ça nous prend à peu près 3 ans pour faire la mise en page. Et certaines langues, ça a pris à peu près 6 ans. De nos jours, ça prend 2 semaines. Parce qu'on a l'équipe des jeunes qui, avec informatique, tout est préparé pour faire ça. Donc, c'est le projet. Avant, on a fait 20 ans. Et maintenant, le projet de traduction, ça peut durer à peu près 12 ans. Priez pour nous. Priez pour ces jeunes qui travaillent avec moi. Et priez surtout pour les missionnaires et les traducteurs qui travaille dur. Par exemple, le bonhomme. Le missionnaire m'a dit, on a cassé la tête pour trouver un mot. Ça n'existe pas dans le bonhomme. Je dis, quel mot? La joie. Ils ont le mot heureux, joyeux, mais la joie dans le Seigneur, ils n'ont pas ce mot-là, ils n'ont jamais connu, ils n'ont connu que la peur. Et donc, je ne sais pas comment ils ont trouvé comme solution. Je crois qu'ils vont choisir le mot, je suis presque sûr, le moment où ils sont allés, ils sont de retour, ils viennent de la chasse. Ça, c'est le mot le plus proche pour pour la joie. Des choses simples, vous voyez, mais pour nous. Mais c'est très difficile. Parce que quand j'étais traducteur de la Bible, on devait traduire le mot qui est le plus difficile de trouver, le mot Dieu. Parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas Dieu. Dieu, c'est idole. Et donc, on a tracassé la tête pendant 3 ans pour trouver un mot correct pour traduire Dieu. Donc, ce n'est pas facile. et prier pour ces gens-là. Surtout, ils n'ont pas une forme d'écriture dans leur langue. Il faut d'abord inventer le système d'écriture et trouver les mots qui n'existent pas. Mais j'admirais surtout les missionnaires, où ils travaillent dur pour extraire ce que les gens peuvent s'exprimer pour traduire la parole de Dieu. Travail difficile, mais fascinant. Et surtout la joie quand les gens célèbrent, quand ils reçoivent la Bible pour la première fois. C'est toujours le moment que j'attends de plus quand on fait le service pour remercier Dieu pour la Bible. C'est un livre fascinant. C'est un livre qui change. Et souvent un livre qu'on laisse à côté en Europe. Et tandis que là-bas, les gens, ils ont besoin. Priez pour nous et que la parole apporte beaucoup de fruits. Et priez aussi pour nous-mêmes ici en France, qu'il y ait des retours à la Bible, retour aux valeurs. Parce que je crois que la plupart des Français ne savent pas ce que c'est la Bible. Ou vaguement, ils n'ont aucune idée. Donc, il faut aider les gens. Parce qu'ils ne peuvent pas aller par eux-mêmes. Sans nous. Nous, on a découvert quelque chose d'extraordinaire. Partageons avec eux. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a apporté le salut à travers la foi en Jésus-Christ. La parole qui nous éclaire, qui nous sort de des ténèbres afin que nous puissions connaître le seul vrai Dieu, le seul vrai Sauveur Jésus-Christ. Et nous voyons que beaucoup de peuples qui n'ont pas encore la parole dans leur langue, beaucoup de peuples vivent dans la crainte, dans la peur des démons. Mais nous prions, Seigneur, que ta parole libératrice puisse apporter le vrai changement. Merci pour la liberté qu'on a ici en France, que tu nous aides aussi dans notre façon de vivre, de dire des choses, de faire pour que nous puissions refléter le Christ le Sauveur du monde. Merci parce que tu nous as confié ta parole, tu nous as confié l'Évangile. Aide-nous vraiment, Seigneur, d'avoir le courage d'apporter le salut, la parole de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Nous te remercions et prions au nom de Jésus. Amen.